tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, La transmission dans tous ses états, une série de Caroline Eliachev réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a les aînés qui regardent les plus jeunes avec plus ou moins de bienveillance, des noms qu'on se transmet à chaque génération, et les histoires et les biens qui vont avec. Et puis il y a aussi des habitudes, des usages, des savoirs et même des privilèges qu'on se transmet quand on a la possibilité de le faire et l'envie de s'en emparer. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas de l'héritage et ceux qui n'hériteront que d'eux-mêmes. Alors il faut peut-être questionner la transmission et se demander aussi si ce qu'on a à transmettre est forcément si désirable, parce que transmettre, c'est aussi transmettre des gestes. Alors pour commencer, les personnages. Un cavalier qui est aussi un metteur en scène, un dresseur de chevaux et un chef de troupe, une danseuse étoile qui a rangé ses chaussons et ouvre une école, un artiste qui accumule, un restaurateur qui soigne les vieilles boiseries, une boulangère, fille de boulanger, un joyeux plombier et des doigts de fée. Ensuite, le décor. Des manèges où les sabots s'enfoncent dans le sable, des fours qui ronflent, des parquets de danse, des ateliers qui sentent le vernis, des silhouettes penchées sur leur ouvrage, des gestes que l'on répète et que l'on apprend. Aujourd'hui, 3e épisode, pour prendre la relève, on commence par observer.
Je me rappelle de Jacqueline Moreau. C'est une professeure qui s'est assise auprès de moi pendant toute une année. C'est-à-dire qu'elle avait compris que j'avais ce talent d'être feignante quand j'avais compris que j'avais gagné le mouvement et que j'attendais que les autres me le comprennent. Et elle ne voulait pas que j'attende les autres. Donc elle s'asseyait à chaque cours auprès de moi pour que je ne le relâche jamais une seconde d'attention. Elle m'a fait comprendre qu'on travaillait pour soi et pas pour un groupe. Je me suis dit, mais dis donc, quelle peau de vache. Et puis, en fait, c'est l'amour de ma vie, cette prof.
Les grands maîtres que j'ai eus, mon père, les jésuites, mon maître Camille Bergeau, c'était des maîtres par ce qu'ils ne disaient pas. Et sous ce rapport, ils allégeaient l'obligation dans laquelle nous aurions pu nous trouver de poser des questions pour être instruits. Comme ils ne disaient rien, comme ils suggéraient les choses, comme ils laissaient apparaître des vides, et bien tout d'un coup, le savoir possible s'engouffrait dans les vides. Et nous allions chercher ailleurs, pas nécessairement auprès des maîtres eux-mêmes. J'allais pas demander à mon maître Camille Bergeau de m'apprendre la littérature. Mais il m'a dit une fois une chose, eh bien, qui a conduit toute ma vie sur le chemin de la littérature, quand il parlait de l'essence de la littérature en citant un passage de La recherche du temps perdu, où Proust écrit « Et toujours viendrait comme un flot de nouvelles princesses de Guermantes », ou plutôt non. Une seule princesse de Guermantes, victorieuse de la mort. Et Camille Bergeau nous a dit, vous voyez, ou plutôt non, pensez-y, il aurait pu raturer. Il n'a pas raturé. Vous étiez avec lui et il a dit, ou plutôt non, une seule princesse de Guermantes. Il s'est tu et il a ajouté, c'est cela, la littérature.
Artistes et artisans, la passion de transmettre. Caroline Eliachev, Manouchak Fachaï. La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot ou l'écrivain François Sureau reconnaissent aisément avoir eu des maîtres. Ils se les sont donnés sans que ceux-ci en aient forcément conscience. Dans un climat anti-autoritaire, cette relation dissymétrique par essence n'a pas bonne presse. Si l'on en croit Georges Tenner, un maître envahit, entre par effraction, voire dévaste, afin de faire le ménage et de reconstruire. Il n'empêche que sans être nommé et encore moins revendiqué, ce lien se perpétue. Nous sommes allés à la rencontre d'artistes et d'artisans qui ont la passion de transmettre aux jeunes générations par leur présence vivante ce qu'ils ont reçu. Les artistes parce qu'ils s'inscrivent dans la lignée de ceux qui les ont précédés, les artisans parce que leur métier, leur savoir-faire ne s'apprend pas dans les livres. À une différence cependant, pas de progrès en art, tandis que les artisans en sont tributaires.
Mais disons, l'art, c'est comme une rivière où l'eau serait un peu plus loin. Donc, je pense que dans mon domaine, on pose toujours les mêmes questions, mais on parle à chaque fois avec le langage de son temps.
Christian Boltanski, artiste.
Il n'y a pas une transmission directe, mais il y a être dans une sorte de famille. On a des pères, des grands-pères, des oncles, des petits-enfants. Donc, effectivement, c'est une sorte de transmission. En tout cas, il n'y a aucun progrès.
Sébastien Évin, restaurateur de meubles 18e.
Après, nos métiers, comme toujours, se transmettent en atelier. C'est comme ça que moi, j'ai appris mon métier. C'est comme cela que je pense le retransmettrai demain. Et quand on me propose de devenir enseignant ou autre, pour moi, ça n'a aucun sens. Bref. Donc, je crois beaucoup plus à la transmission directe plutôt qu'institutionnelle, on va dire ça comme cela. Et une nouvelle fois, pour moi, ce sont des rapports humains, des rencontres, des choses comme cela.
Connaître le passé est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour être créateur, et peut même se révéler inhibant.
Dans mon métier, qui est la transmission artistique...
Bartabas, artiste.
Il faut faire attention un petit peu à la... trop d'histoire de l'art, j'allais dire trop de connaissances, peuvent quelque part annihiler l'envie de créer. Pas l'envie, le culot, j'allais dire, de créer même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se lancer.
You know, they say that to give is to receive. And I think it's true. To give is to receive, because by giving this concert here tonight, I feel I received so much. So I'm so grateful. Thank you. Thank you. And now, we want to give you that slow knowing.
Signore e signori, buongiorno al comandante di bordo e tutto l'equipaggio. Con il piacere di accogliere.
Italia, près de Turin.
Dell'aeroporto di Torino Caselle.
Moncalvo. Simone Denegri et Marie-Agnès Gillot ont eu un coup de foudre réciproque et elles y ont créé l'école de danse Orsolina 28, dont Marie-Agnès Gillot est la directrice artistique. Simone Denegri.
Quand je lui ai parlé de Alvin Ailey,
she said, oh, j'adore.
Elle a dit j'adore.
And I said, okay, so you like what they
okay,
do.
Donc tu aimes ce qu'ils font, le contemporain
and ballet
et le ballet classique.
One technique isn't better than the
Une
other.
Technique n'est pas meilleure qu'une autre.
Value, same.
Elles ont la même valeur.
This is what I would like to do.
C'est ce que j'aimerais
like
faire.
This, like this.
Créer une école comme ça ici. Et elle était partante.
C'est-à-dire qu'elle aimait Alvin Ailey, elle aimait Martha Graham, elle aimait...
Marie-Agnès Gillot.
Toutes les choses que moi, normalement, je ne devrais pas aimer puisque je ne suis pas américaine. Je devrais aimer le Nourieff, le Balanchine, parce que c'est les premiers rôles qu'on m'a donnés. Mais Alvin Ailey, on a une passion toutes les deux pour Alvin Ailey. Et ça, c'était quand même improbable qu'on ait cette passion toutes les deux. Moi, je voulais être black pour danser chez Alvin Ailey.
Que ça, quatre fois.
Sì, la prima e la seconda. Sono posizioni che conosciamo, prima e seconda. Ok?
Envie d'enseigner très tôt, en fait. J'ai commencé à enseigner vers l'âge de 20 ans. Parce qu'en fait, pour un artiste, l'enseignement, c'est vraiment une remise en question permanente, parce que pour faire comprendre à un enfant un exercice, il va falloir se retrancher dans ce qu'on connaît. Et si ça ne marche pas, il va falloir rechercher quelque chose qui va pouvoir, lui, comprendre. Donc, soit le simplifier, soit l'humoriser, je ne sais pas si on peut dire ça, soit le couper, par exemple. Il faut trouver un moyen que l'enfant comprenne. Et ça, en fait, quand on analyse si fort un pas, alors que vous pouvez l'avoir naturellement dans la sensation, c'est des choses qui font progresser le grand, en fait.
Quand vous avez commencé à enseigner, c'était où ?
Dans mon village, en Normandie. C'est pas dans mon village, c'est dans ma ville, à Caen. Ouais, donc c'était drôle, c'était d'une canaise au canaise.
Vous reveniez à Caen pour donner des cours de danse.
Ouais. Mais c'est franchement quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et que j'ai toujours aimé. Je fais des recherches, j'essaye d'approfondir mes cours. Après, quand je suis devant les élèves, j'improvise suivant le niveau que j'ai, suivant les défauts que j'ai, suivant ce que j'ai envie de travailler ce jour-là. Si je déplace mon intérêt sur une... Voilà, tout d'un coup, j'ai envie de leur apprendre à faire des belles demi-pointes ou des beaux retirés. Donc, je vais rechanger toute ma structure et mon squelette du cours. Ça dépend vraiment ce que j'ai... Je prépare, mais après, en fait, je fais sur le moment. C'est toujours pareil. J'arrive pas à garder une ligne de conduite propre par rapport à mes recherches. Je pars tout de suite dans l'improvisation sur eux, en fait, de l'enseignement. Moi, ce que je trouve beau, c'est que cette transmission est humaine. On peut transmettre des partitions. La danse, même si on a deux notations qui ont été créées, on ne peut pas la transmettre. Et enfin, on ne peut pas la transmettre par papier, par fourniture, je dirais. On peut la transmettre qu'avec du cœur, de l'esprit et beaucoup de sueur.
On va faire premier, dégager première. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plié. 1.
On enseigne en français, en tout cas j'enseigne en français, parce que en fait, pour moi j'estime que la danse c'est un langage du corps qui est universel.
Que ça. Faites attention que quand vous faites la jambe de terre, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. C'est une seule ligne déjà.
Même si je formule en français,
je
vois que les enfants sont capables de me reproduire sans même comprendre ce que j'exprime en français.
Et donc quand vous devez les corriger, vous les corrigez en les touchant.
Oui, ce qui est plutôt normalement interdit déjà en France de toucher l'enfant. Alors qu'en fait, pour faire comprendre une sensation, il n'y a pas de gestes qui sont inappropriés, il n'y a pas de gestes désaxés, c'est juste, il faut juste sentir, et donc il faut faire toucher, il faut que je touche l'endroit pour que l'enfant comprenne que c'est ce muscle-là qui doit partir, et c'est ce muscle-là qui doit se contracter, et donc il n'y a que le toucher pour faire ça.
Bien. Faites attention, les dégager, ça passe pas par l'air, le dégager, il reste toujours au sol. Je vois des dégagés comme ça. Toujours en contact. You have to be always in contact with the floor. You cannot fly to finish point.
Est-ce que pour la danse, vous feriez une distinction entre apprendre et transmettre?
Oui. On apprend à tous, on transmet à peu. Parce que la transmission, ça veut dire qu'il a vraiment compris l'essence de tout. Apprendre, on apprend des pas. Transmettre, ça veut dire qu'il a tout compris. C'est-à-dire qu'il sera capable de transmettre aussi la musicalité, l'humanité, l'interprétation, pour aussi transmettre les détails. Parce qu'en fait, là, on parle de pas, mais entre-temps, la grande danse, c'est la musicalité. Et c'est la musicalité aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'un grand danseur, c'est quelqu'un qui prend l'espace, qui est musical et qui est parfaitement technique. C'est pas toutes les grandes interprètes qui sont de grands pédagogues. Hein. C'est absolument pas ça. C'est vraiment très bizarre parce que c'est une fibre particulière, c'est une fibre humaine même. Et un savoir-faire et peut-être une patience que tout le monde n'a pas en fait.
Aussi une volonté de transmettre. Tout le monde n'a pas la volonté de transmettre.
C'est même pas transmettre, c'est donner en fait. C'est donner ce qu'on a reçu, donner son savoir. Il y a tellement de danseurs qui partent avec leur savoir.
Et c'est au milieu des vignes que le rêve s'est concrétisé.
J'avais envie d'une école de danse et j'avais envie d'une école de danse qui me ressemble, c'est-à-dire avec une forme de liberté, de nature, de biodynamique sportive, je ne sais pas, un nouveau mot qui n'existe pas, mais que tout soit autour de la nature, que l'enfant soit libre, soit pas attaqué par la ville, soit pas attaqué par un manque de liberté dans son naturel en fait. Et donc là, c'était la cave, en fait. C'était là où ils stockaient le vin, parce que c'était des grands producteurs de vin. Et donc, ils ont vidé toutes ces énormes cuves et tout ça, et ils ont transformé toute cette bâtisse en studio de danse. Et vous avez vu comme c'est beau, quand même. C'est quand même d'une beauté rare. Et là, en plus, bon, c'est vrai que les cours étaient tard, mais quand on prend le cours et on voit la nature à perte de vue dans les baies vitrées, c'est quand même... Je pense que c'est intéressant de tout de suite éveiller l'enfant à une beauté qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie en fait. J'aime la nature, l'art, la danse, la nourriture. J'aime tout.
Just give me that. bois. Il y a 5 planches. Elles sont usées, ou en tout cas elles sont vieillies, maturées, un petit peu comme des barriques de vin, fournées après fournées pour accueillir et favoriser la fermentation. Ce qui est intéressant, c'est juste de s'approcher et de sentir les odeurs. Selon les jours, l'odeur, elle peut être très légère ou beaucoup plus forte. Et en fait, ce qui est cool, c'est de se rapprocher et juste de se dire, en fait, c'est juste 5 planches en bois. Et ces 5 planches en bois, elles sont extraordinaires parce que fournée après fournée, elles ont accueilli la fermentation de nos miches de pain. Et du coup, elles vont développer un environnement qui va favoriser la fermentation.
Alors qu'apprendre et transmettre paraissent indissociables, Marie-Agnès Gillot n'est pas la seule à les distinguer.
La différence entre apprendre et transmettre.
Apollonia Poilane, boulangère.
Alors, ce qui me semble une évidence, ou plutôt, entre apprendre et transmettre, à chaud, apprendre, je découvre, je touche, je ressens, je vois, j'apprends à découvrir ce territoire, ses contours, ses formes, son relief. Et transmettre, c'est de dire voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je comprends, voilà ce que je vais partager avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais...
En tout cas, dans mon expérience, apprendre suppose...
François Sureau.
Comment dire, une sorte de porosité un peu simnonienne, vous voyez, un côté Maigret, comme Maigret dans les enquêtes, qui s'incorpore la totalité de ce qui se passe, une passivité. Voilà. Il y a une passivité de l'éducation, qui est une passivité absolument nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été très étonné à l'égard de toutes les méthodes actives, et ça, j'ai toujours eu l'impression que j'avais les choses que j'avais apprises les plus profondément, je les avais apprises comme on prend son bain, c'est-à-dire sans faire grand-chose. Et donc pour moi... Le fait d'apprendre à avoir avec la passivité, une porosité, une ouverture, une absence de jugement, une sorte de bienveillance transparente à l'égard des choses telles qu'elles se présentent à la conscience, des choses et même des raisonnements. En revanche, transmettre, pour moi, suppose un peu plus de choix, un peu plus de discernement, un peu plus d'activité et d'une certaine manière un peu plus de confrontation.
C'est deux choses différentes. Hein. Quand on peut faire les deux,
Sébastien Evin.
On a réussi, je pense, un bout de chemin professionnel. J'ai réussi le premier bout de chemin, je pense avoir réussi. J'ai réussi à apprendre, c'est-à-dire qu'on m'a transmis. Ou plutôt, j'ai été pour eux à recevoir et à voir. Voilà. On ne transmet pas forcément directement dans nos métiers. On transmet par la vie du quotidien, par voir les autres. Voilà. Et c'est très pudique, je pense, la transmission dans notre quotidien, en tout cas de la manière dont moi je l'ai ressenti et les personnes avec qui j'ai pu travailler.
L'autre notion qui est fondamentale et qui est difficile à transmettre dans les faits, c'est que pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre.
Marthe Abbas.
Donc ça pose un problème pour une école, puisque c'est-à-dire que pour moi, la vie n'est pas séparée en trois. Il n'y a pas le moment où tu apprends, le moment où tu rentabilises ton savoir et le moment où tu prends ta retraite, tu te reposes. Non, pour moi, tu es toujours en train d'apprendre, quoi. Ne serait-ce que dans le dressage d'un cheval. On dit, il faut 5-6 ans pour dresser un cheval, ça dépend des chevaux. Mais en fait, on n'a jamais fini. Puisque tu affines une relation avec le cheval qui peut se retravailler à l'infini. C'est comme si tu peaufinais un poème ou tu peaufinais. Il n'est jamais fini. Tu peux toujours rendre le dialogue encore plus sensible. Après l'âge venant, si tu es confronté à d'autres problèmes avec toi-même, avec le cheval. Enfin, c'est une discipline qui est sans fin. Et en fait, on parle plus de chevaux, quoi, en fait. Très vite. Ça a dépassé, c'est là où c'est un art d'ailleurs, c'est qu'il ne s'agit plus de parler d'une technique, mais tu parles de la relation des hommes entre eux, tu parles de la vie, quoi, tout simplement, quoi, à travers ce travail.
Sitôt qu'on met le pied dans le compagnonnage, on a quelqu'un de plus fort que soi, donc on a envie de le suivre. Mais sitôt qu'on a 2 jours dans le compagnonnage, arrive quelqu'un qui n'a qu'un jour et qu'il faut aider. Donc cette émulation fait des compagnons, on va dire des gens qui retransmettent facilement, qui sont bons formateurs, parce que sitôt qu'ils ont un petit peu de connaissances, ils arrivent à la parfaire parce qu'ils doivent déjà la retransmettre. Celui qui ne peut pas retransmettre n'est pas bon compagnon. Il vit mal le compagnonnage.
L'artisanat englobe toutes sortes de métiers, dont certains sont en voie de disparition, tandis que d'autres attirent de plus en plus de jeunes ou d'adultes en voie de reconversion. Dans tous les cas, il s'agit de transmettre des savoir-faire où la relation humaine reste prépondérante. Mais si les artisans exercent des métiers traditionnels, ils les pratiquent dans un monde qui a changé. Alors, les artisans changent aussi, comme le montrent Sébastien Evin et Patrice Thévenin.
Alors, je pense avoir un parcours très différent de la majorité de mes confrères. Je suis venu, moi, à la restauration par amour des meubles anciens et pas par l'ébénisterie. Je pense que la quasi-totalité de mes confrères viennent dans nos métiers parce qu'ils sont d'abord ébénistes.
Sébastien Evin, restaurateur de meubles 18e.
La plupart du temps, aimerait être créateur, ou en tout cas fabriquer des beaux meubles à la main parce que c'est noble. Et puis finalement, à l'âge de 20 ans, on s'aperçoit que, il y a 20 ans, on s'apercevait que c'était totalement bouché. Et donc, du coup, à défaut, on rentrait dans la restauration. Pour moi, c'était totalement différent. J'étais passionné par le monde des antiquités. Moi, mon travail, j'ai de plus en plus de mal à le définir en un mot, mais je dirais que d'abord, on restaure en conserve, et après, on étudie. Je trouve que étudier, c'est le propos le plus juste dans ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on essaye de définir au mieux les œuvres, et la conclusion fait que ça définit souvent l'expertise, ou ça définit souvent un générique autour d'une pièce. Et dans le mobilier 18e, c'est rarement tout bon, tout faux. Le curseur est souvent à positionner d'une manière assez précise.
Sébastien Evin fait incontestablement ce qu'il aime, mais avec lucidité. Son métier a peu d'avenir. Sa modernité, qu'il oppose à son maître, c'est d'avoir compris que ce qu'il peut léguer de plus précieux est de l'ordre de la connaissance.
S'il y a une personne à définir, obligatoirement, je suis obligé de parler de M. Germont. Monsieur Germont est la personne chez qui j'ai travaillé pendant 7 ans avant de m'installer. Monsieur Germont a été la grande référence pendant un demi-siècle, la restauration de meubles. Ça a vraiment été, je pense, le précurseur de ce que l'on entend aujourd'hui dans la définition de conservation, de restaurer avec éthique un meuble. Aujourd'hui, c'est une personne qui a un peu plus de 80 printemps. Il s'est arrêté à 78 ans. C'est un gros caractère percheron. Et quand on dit grande personnalité, souvent, ça veut dire très grande qualité et ce qui va en opposition. Et obligatoirement, ça marque la vie d'un jeune ébéniste que j'étais quand je suis arrivé chez lui. Je suis arrivé chez lui quasiment, pas en stagiaire, mais en petit ébéniste de province qui arrivait à la capitale. Et au bout de 7 ans, on a réfléchi à comment la transmission pouvait se faire pour lui, puisque c'était très important de transmettre son savoir, son atelier. Et puis pour beaucoup de raisons, ça ne s'est pas fait officiellement. Donc quand il a arrêté son activité en 2011, j'ai ouvert moi l'atelier ici. Tout ce que vous voyez ici, les outils, les bois en bas, tout ce qui nous sert au quotidien à travailler, vient de chez lui et sans son soutien et sans son aide, on pourrait le définir de mille manières, ce serait impossible de faire ce que l'on fait aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que ce maître, M. Germont, lui a transmis ?
Alors, plutôt pas transmis. Ce qui m'a le plus marqué, c'est plutôt à la base, non pas un défaut, mais je ne sais pas comment le définir, mais on va dire une incompréhension de ma part. Lorsque l'on a évoqué pendant au moins 2 années le fait de pouvoir reprendre l'atelier, il y avait l'outillage, il y avait aussi tout ce qui était documentation. Et dans nos métiers, la documentation, je considérais cela primordial, très très important. Et lui avait une toute autre conception des choses. Donc je me suis installé, j'ai eu le matériel pour pouvoir travailler, et pas de documentation. Pour faire de l'expertise, pour faire de l'étude, on va dire précisément, c'est indispensable. Donc je me suis lancé d'une manière un peu à l'opposé de son positionnement dans l'élaboration d'une base de données qui puisse nous servir pour travailler pour moi. Et si aujourd'hui, il y a une chose que j'aimerais transmettre, ou en tout cas je n'imagine pas ne pas transmettre, c'est bien ma base de données, qui est probablement aujourd'hui, je pense, vraiment une des plus importantes en main privée, ce mobilier du 18e siècle.
Il frappe à la porte, une voix à l'intérieur fait...
Hey, c'est le plombier! C'est le plombier! Un quart d'heure après. Plombier! Et je suis fier d'être plombier! Qui dit que je suis pas plombier ici, hein?
Notre plombier d'aujourd'hui, c'est Fabrice Thévenin. Et on a toujours besoin d'un plombier.
Une demi-heure après.
C'est un plombier. Un gentil plombier. Il n'y a pas plus gentil que les plombiers.
Fabrice Thévenin.
J'ai appris la plomberie dès mon jeune âge, 16 ans, dans une petite entreprise et en apprentissage. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui faisaient le compagnonnage. Et donc, je me suis intéressé au compagnonnage et j'ai suivi un petit peu cette voie quelques années avant de prendre une certaine forme d'indépendance sur le métier.
Et si les artisans ne prétendent pas être des artistes, la création et les joies qu'elle procure ne leur sont pas étrangères.
Alors, en plomberie, la création, elle est que, et dans le compagnonnage, hein, dans les métiers du bâtiment, c'est basé sur le fait qu'on puisse de ses mains créer quelque chose. Hein. Ses mains par le travail, il y a l'esprit, mais je veux dire faire en sorte qu'on puisse créer quelque chose de nos propres mains, être à l'origine de quelque chose, et ça c'est très validant. Et j'ai appris beaucoup durant mon apprentissage. J'ai appris aussi à souffrir. J'avoue qu'au début, c'était ce qu'on appelait la massette pointrolle pour faire des trous, des tranchées, pour passer les tubes. Et même dans ces moments difficiles, j'ai appris que j'étais important sur la séquence de travail. J'étais apprenti, j'étais là pour apprendre, mais j'étais là aussi pour m'investir. Et on me demandait, en tant qu'apprenti, de faire des trous, souvent, de faire des trous, de faire des tranchées, mais je savais que derrière, on allait passer les tuyaux et que mon travail était important. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que, oui, effectivement, il y en a qui font du sport hein, pour se retrouver. Moi, à l'époque, c'était certainement ma façon à moi de me donner physiquement et de me retrouver pleinement dans le fait que je faisais quelque chose qui était utile et que je participais à quelque chose. C'était très important. Et quand je parlais de création et de cette forme d'art, c'est dans la perfection et dans le fait de réaliser quelque chose. Les métiers sont en évolution constante, je veux dire.
Fabrice Thévenin ne m'a pas démenti quand je lui ai cité Marcel Gaucher qui dit « Un vrai maître est celui qui donne le sens de ce que nous ignorons, plus encore que de ce que nous connaissons. »
C'est vrai que j'ai eu des gens, des compagnons du bâtiment, des compagnons plombiers, qui avaient véritablement une certaine prestance, mais aussi une certaine façon, une certaine âme sur le fait d'appréhender le travail et de le réaliser. Et simplement parce qu'ils avaient une certaine personnalité, ils avaient une certaine façon d'aborder le travail. Et c'était des fois rassurant parce qu'ils y allaient vraiment. Ils allaient au bout des choses et là, j'ai beaucoup appris. Alors, j'ai plein de souvenirs, dont un compagnon qui s'appelait Thierry, qui était de Fépin dans les Ardennes. Il était toujours de bonne humeur, mais il était toujours d'attaque. Quand je dis d'attaque, c'est il était toujours à 200 à l'heure sur son travail. Je me rappelle que je le voyais des fois monter les échafaudages. Il était joyeux, il était plein de vie. Et j'avoue que moi, ça m'a beaucoup aidé en termes d'attitude à avoir sur un chantier, sur... On commençait le matin, le boulot, en se disant « on va y aller, on y va, on est des gagnants ». Ça peut paraître un peu idiot de dire ça, mais c'est vrai. C'était vraiment j'étais content. Moi, j'étais content, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, mais j'étais content d'aller à mon travail. C'est ça, j'avoue que ça me manque. Et ces gens avec qui je partageais des moments agréables tout en réalisant, parce qu'il y avait beaucoup de réalisations, hein, en réalisant donc de la plomberie, des appartements, délivrer des appartements, travail bien fait, mais je veux dire, avec énergie, on passait du temps, on comptait pas nos heures.
Mais Fabrice Thévenin ne transmet pas à l'identique ce qu'il a reçu, et pas seulement parce que la technique évolue. En fait, il a créé une autre forme de compagnonnage.
J'ai eu pris des apprentis quand j'étais agent de maîtrise dans une entreprise, depuis 10 ans maintenant, le fait d'être en entreprise. J'ai ma propre entreprise, artisan. J'avoue que je n'ai pas repris d'apprenti. Je suis parti dans une autre logique. C'était d'aider des gens que j'ai connus à créer leur propre entreprise et de pouvoir travailler ensemble. C'est de créer un groupe, finalement. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Je leur ai proposé de créer leur propre entreprise. Donc, c'est passé par un statut d'auto-entrepreneur à une époque. Et ensuite, de créer véritablement une entreprise pour pouvoir jouer le jeu de l'entreprise. Et de pouvoir faire en sorte d'avoir des frais, d'avoir un véhicule et d'acheter des matériaux. Vraiment, voilà. Et de retrouver une équipe de personnes qui étaient tout de suite disponibles et en même temps qui on pouvait confier des missions. Et en même temps, ça permettait d'avoir des gens avec qui j'ai travaillé, que j'avais sous mes ordres, et de les mettre à un point de responsabilité. C'était passé une autre étape. Parce que j'avoue que c'est valorisant d'être son propre patron.
C'est là 180.
Le seul reproche que l'on puisse faire à notre plombier, c'est que s'il exerce son métier à la perfection, on n'aura malheureusement plus l'occasion de l'appeler.
Ah, mais là, il y a un boulot de la plupart de nos coloristes en fait des beaux-arts. Nos coloristes, elles ont cette sensibilité dans l'association de couleurs. Moi, je serais incapable, vous me donnez 10 pots de couleurs, on est de recréer une ambiance, vous allez me dire, mon Dieu.
Carreau du Temple à Paris, exposition Hermès hors les murs.
C'est parce que c'est des selles spécifiques. Et donc, du coup, il a fallu complètement inventer, parce qu'on n'avait pas du tout d'équivalence.
Ça sert à pas être de la réglette, on ne travaille pas en centimètres.
Les artisans roulottent, frappent, certissent, façonnent, colorient, cisèlent, perlent.
Parce que faire des carrés pour faire des carrés.
Devant un public tous âges confondus, curieux et admiratif.
Certisseur.
Il est guidé. Non, il n'est pas téléguidé. C'est ma main qui.
Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc je suis certisseur chez Hermès. Et là c'est un galop, c'est un bracelet. Il faut savoir qu'il y a 2700 pierres dessus. Et donc je l'ai en trois parties. Pour une bonne raison, c'est que entre les mailles.
Et j'ai procédé de la même manière pour chaque couleur qui compose le dessin original réalisé par.
Le médium permet de les poser au pinceau, mais surtout leur spécificité, c'est qu'une fois monté à 800 degrés dans le four, ils deviennent transparents et brillants. Vous voyez, là j'ai peint tout à l'heure. Vous voyez, c'est farineux, c'est un peu mat, pas très joli. Et une fois cuit, c'est là-bas.
Continuez à nous faire rêver. Ça fait rêver, oui, ça fait rêver parce qu'avec ses mains, on peut faire tellement de choses. Et la beauté de tout ça, c'est quelque chose. On a dénigré le travail manuel, mais je pense que c'est le plus beau travail qui puisse exister.
L'opération suivante, c'est la fonte.
Dans le luxe, l'excellence est la qualité principale. On ne demande pas à ces artisans de créer, et pourtant ils le font, mais de perpétuer la tradition à la perfection. Comment l'atteignent-ils ? Nous les avons retrouvés dans l'atelier Hermès de Pantin, où Caroline, formatrice confirmée, nous a guidés.
Je vous emmène à l'atelier voyage.
Donc l'atelier voyage, on fait des sacs à main. Donc vous avez le Kelly, le Birkin, il y a plusieurs sacs. C'est le premier atelier où je suis rentrée dans la maison, j'étais au voyage. Donc voilà l'atelier où je suis rentrée. Donc je suis restée 12 ans dans cet atelier et après je suis partie pour être formatrice à l'atelier formation.
Donc voilà, donc là j'ai fini le montage des birkins des côtés et puis j'ai vu le laminé en machine pour la couture. Voilà. La couture main se fait avec une haleine aux pinces et deux aiguilles.
Caroline, vous faites de la formation depuis combien de temps ?
Je fais de la formation depuis 12 ans à l'atelier formation. Pendant 3 ans, j'étais tutrice dans un atelier, donc l'atelier voyage. Et ça fait 25 ans que je suis dans la maison.
Qu'est-ce que c'est être tutrice ?
Alors tutrice, c'est juste accompagner un apprenant qui arrive de la formation, juste le mettre à l'aise dans l'atelier, lui apprendre des nouveaux modèles s'il ne les a pas appris en formation. C'est le sécuriser. Pas le plonger dans un atelier comme ça, sans qu'il ait de...
Et vous avez été formée où ?
J'ai fait l'Abbé Grégoire, donc ça s'appelait la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Donc j'ai fait 2 ans de BEP.
Votre idée, c'était d'entrer chez Hermès quand vous avez commencé ?
Non, pas tout à fait. Déjà, j'ai eu des soucis de scolaires, voilà, j'aimais pas trop l'école. Donc je voulais être dans le dessin. Dans le dessin, bien sûr, mes parents, ils m'ont dit que le dessin, ça, on gagnait pas avec le dessin. J'allais pas mettre mes toiles sous les ponts. Donc, du coup, ma mère m'a emmenée dans la chambre de commerce et d'industrie de Paris parce que c'était plus un métier manuel que je voulais. Donc, j'ai vu le métier de sellerie maroquinerie et je me suis dit, je vais essayer. Donc, et je suis arrivée là. Et quand j'ai connu la maison, je me suis dit, je vais essayer de rentrer dans la maison Hermès. Donc j'ai refait une année d'artisanat en tant que sellerie harnachement. Même moi qui n'aimais pas l'école, j'ai refait une année en plus pour vraiment rentrer dans la maison.
En France, les parents acceptent difficilement qu'un enfant choisisse l'apprentissage aux dépens d'un baccalauréat mythique.
Ou après, vous avez aussi des enfants qui sont dans le métier. J'ai vécu, il y a 5 ans, une petite jeune qui avait un CAP, qui se débrouillait super, super bien. Et ses parents ont voulu qu'elle fasse des études plus hautes, donc un bac. Mais le problème, c'est, je lui ai dit, si au cas où tu fais ton bac, Hermès ne sera pas sûr de te reprendre. Donc cette jeune fille a voulu que j'appelle ses parents comme si j'étais la prof, que je supplie ses parents pour qu'elle reste ici. Mais ça a été compliqué. Ça a marché. Elle est restée ici. Donc on l'a embauchée, elle avait 16 ans. Donc ça a marché. Et le jour où mon contremaître m'a dit « Caroline, tu vas changer et tu vas faire la formation montée en puissance du SAC », je me suis dit non, parce que c'était vraiment mon élément de former les petits jeunes qui arrivaient. Les voir faire leur premier SAC, dans les yeux, il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a tout. Ils veulent prendre leur SAC en photo, c'est magnifique. Donc vous avez Marie. Marie, c'est une personne qui vient du Vaudreuil, qui a décidé de venir travailler sur Pantin. Donc là, elle est sur des petits exercices de poignée Kelly pour plus tard, dans pas très longtemps, nous allons attaquer le SAC, le Kelly.
Et la formation ici, ça vous convient ?
Oui, c'est précis, exigeant. Ça demande beaucoup d'attention, de concentration. C'est vraiment passionnant parce qu'on nous en demande toujours plus. Enfin, tout est perfectible. Et donc, on est en perpétuelle recherche. C'est passionnant. On ne s'ennuie pas.
Vous avez l'impression que vous pourrez apporter quelque chose ?
Pour l'instant, non, je prends, mais j'espère un jour donner, évidemment. Mais pour l'instant, non.
Autant le cursus des artisans est formaté, autant les artistes peuvent avoir des parcours chaotiques quant à la formation qu'ils se sont donnée.
Premièrement, il faut peut-être retourner un peu plus loin, je suis autodidacte.
Niquet de Saint-Phal.
J'ai toujours peint, c'est-à-dire toute mon enfance, partout mes livres, des cahiers étaient remplis de dessins un peu genre indiens, remplis des pages avec dessins très complexes, que je ne considérais même pas des dessins, mais qui me faisaient mon plaisir. Et je n'ai pas pensé à être artiste. Je voulais faire de la mise en scène, et j'étais dans une école, ici je ne m'en rappelle plus. Je me disputais avec tous les gens de l'école parce que je n'avais pas les mêmes idées, etc., etc. Bon, après ça, 22 ans, j'ai fait une dépression nerveuse très grande. Mais je me suis guérie beaucoup plus vite que les gens pensaient. C'était parce que j'ai commencé à peindre tout, là. Voilà, c'était tellement clair et que je ne devais que faire ça. Alors, j'ai commencé à peindre. J'ai commencé à introduire des objets et faire des collages. Et quand j'avais 25 ans, j'ai vu Gaudi à Barcelone, son grand jardin, son merveilleux, son extraordinaire jardin de joie. Et je me suis dit que ça, c'était mon destin, qu'un jour, moi aussi, je ferais un grand jardin comme ça. Mais je savais qu'il y avait un long apprentissage à faire avant que je serais prête à réaliser ce que je devais réaliser.
Christian Boltanski.
Moi, je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas été à l'école d'art. Moi, c'est très étrange, d'ailleurs. En fait, donc j'étais totalement imbécile. Et j'ai fait ma première communion. Et à ce moment-là, quand on faisait sa première communion, on vous offrait des livres religieux avec des reproductions de tableaux. Et ça a eu un effet énorme sur moi. Et donc je me suis mis à faire des dizaines et dizaines de tableaux, dont des massacres des innocents, qui en fait étaient une transmission d'autre chose, mais je ne savais pas. Et donc c'est par ces vieux tableaux que j'ai commencé à faire plein de tableaux pas très bons, et très outsider, très art brut. Et puis après ça, j'ai compris l'art, enfin un peu mieux.
Et nul besoin d'avoir été à l'école pour être un professeur qui sait qu'un créateur ne doit pas être la voix de son maître.
Ce qui est compliqué, moi j'ai été professeur toute ma vie, et ce qui est compliqué, c'est que si on a un étudiant qui fait comme vous, c'est une catastrophe. Et donc, moi je dis toujours à mes étudiants, c'est à vous de m'apporter quelque chose, c'est pas à moi de vous apporter quelque chose. Et il faut essayer d'être différent de celui qui est votre maître, entre guillemets. Alors, il y a cette chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que pendant dans les arts plus traditionnels ou pendant une très grande période de l'art occidental, un bon artiste, c'est quelqu'un qui connaissait les règles et qui transmettait les règles. Et depuis la Renaissance et surtout depuis la période romantique, c'est de casser les règles. C'est de connaître les règles, mais de casser les règles. Et donc de lutter contre la transmission.
Connaître la règle, puis la contourner, est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour être créateur. Christian Boltanski poursuit une réflexion sur la transmission qui transgresse en la transcendant la notion si bien établie de pérennité de l'œuvre d'art. Il rejoint l'affirmation moderne selon laquelle nous sommes entrés dans l'ère de la connaissance. Encore fallait-il réussir à l'exprimer par ses créations.
Et donc, il y a deux manières de transmettre. Il y a une manière de transmettre qui est par l'objet et qui est plutôt occidentale. Et il y a une manière de transmettre qui est par la connaissance. Et en tout cas, dans mon cas aujourd'hui, ce que je fais est toujours détruit, ou presque toujours détruit, peut être rejoué, être réinterprété, parce qu'à chaque fois, ça va être différent. Et il n'y a plus d'original. Il y a la transmission par la connaissance. L'œuvre que j'avais faite au Grand Palais, personne, par exemple, a été jouée à New York, à Milan et au Japon, dans le nord du Japon. À chaque fois, il n'y a eu aucun transport. À chaque fois, on a tout refait. Et pour moi, la meilleure interprétation était à Milan, par exemple. Et c'est en même temps la même pièce et pas la même pièce. Quand je serai mort, il faut que d'autres interprètent mes œuvres. Et donc, forcément, les choses vont se modifier selon les espaces, selon les lieux. Donc là, la transmission se fait par la connaissance. Je crois que dans la transmission, justement, les mythes sont plus forts que les objets. Et je tâche humblement de créer des mythes. Par exemple, il y a une île dans la mer du Japon où battent des centaines de milliers de cœurs. Donc on n'a pas besoin d'y aller, il suffit de savoir que cette chose existe et que cette chose existe réellement. Et les Japonais qui y vont, ça devient presque un lieu de pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas que c'est une œuvre d'art, mais donc ça prend un autre sens. Et donc j'ai l'impression que cette manière de transmettre est peut-être plus forte. Il y a dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, des milliers de petites cloches à un endroit que personne ne peut trouver et qui sonnent au vent. Donc cette idée que j'ai, c'est de faire des légendes, oui. Faire des légendes, mais des légendes basées sur une chose vraie, parce que si on disait « j'ai construit une maison sur Mars », c'est pas intéressant. Il faut que les choses soient... Bon. Mon art n'est qu'un ratage, naturellement, mais c'est un ratage depuis le début, et c'est un ratage annoncé. C'est-à-dire qu'on ne peut rien transmettre, et on ne peut rien, jamais lutter contre la mort, et tout ça disparaît, et tout ça est un combat vain. Et donc, dès le début, je savais ça, mais donc c'est plutôt comme une sorte de protestation contre tout cela, mais... On sait que ça ne marche pas.
Si, comme le dit Christian Boltanski, ça ne marche pas, ça n'empêche pas d'essayer. Un autre artiste autodidacte, Bartabas, s'y est risqué d'une manière toute différente, forcément imprévisible. Après la création de Zingaro, une forme de spectacle qui n'existait pas, sa réflexion sur la transmission lui a fait inventer une école pour adultes, pas comme les autres. Académie équestre de Versailles, aux grandes écuries du roi.
Bonjour.
Je suis pas intellectuel ce matin alors. Par non, passer par là-haut. Ah non, j'ai pas de bureau.
Il y a le bureau de marine.
C'est les chevaux, les bureaux. Hein.
Il y a le bureau de marine à côté.
Oui, on se débrouillera. Allez-y, dans pendant qu'il se travaille dans le neige, ça donnera un peu de son. Les chevaux, c'est un travail de. Il y a un mélange de. C'est l'écuyer des tout nouveaux là. C'est rare qu'on fasse ça, elle fait travailler un peu ensemble là, pour que les chevaux. C'est des poulains pour qu'ils s'habituent à travailler ensemble en fait. En général, c'est des. Quand il y a des cours, quand elle fait travailler les jeunes, c'est individuel, quoi. C'est pas comme ça.
après, c'est le travail des chevaux.
Oui, de temps en temps, on fait des séances comme ça pour les habitués à travailler en groupe. Les jeunes chevaux qui n'ont pas l'habitude. Avant de créer cette école, entre guillemets, qui n'est pas une école, qui est une compagnie école à Versailles,
Martha Basse.
J'ai décidé de vraiment relever le pari, de dire qu'est-ce que ça veut dire d'abord pour un artiste de transmettre. C'est pas aller donner quelques cours dans des séminaires ou à l'université, où bon, ça on peut toujours faire des rencontres, expliquer, d'accord, ça très bien. Mais c'est vraiment me confronter au cœur du problème. Or, je suis dans une discipline qui est hyper complexe, parce qu'elle met en relation évidemment un homme et un animal, et un cheval en l'occurrence. Et il y a des données qui sont incontournables et qui, j'allais dire presque, qui sont contradictoires avec la notion de la transmission telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire une transmission très rapide, en fait, quoi, pour dire les choses clairement. Quoi. Tout va très vite, on veut apprendre, on veut tout savoir très vite, etc.
Alors, comment mettre en pratique ces contradictions, si ce n'est en piochant dans le passé pour innover?
Je suis contre la notion de la position d'élève et de la position de professeur. C'est-à-dire, l'élève est assis, dit « voilà, je suis rentré à l'école, ou je paye mon école, je suis assis maintenant, apprenez-moi ». C'est-à-dire, un peu passif, quelque part. C'est-à-dire, d'un côté, tu as celui qui donne, et de l'autre côté, il n'y a que celui qui reçoit. Quoi. Et moi, j'ai toujours défendu la notion presque de compagnonnage, comme c'était d'ailleurs à une époque très ancienne. Hein. Une époque très ancienne, tu voulais apprendre la peinture, tu allais dans l'atelier d'un grand maître, tu venais taper à la porte, tu dis « maître, j'aimerais être votre disciple », il dit « pas de problème, prends le balai hein. ». Et tu commençais par balayer l'atelier pendant 2-3 ans, puis après tu avais le droit de mélanger les pigments, puis après tu avais le droit de tendre le cadre, et puis après tu avais le droit de peindre le fond, puis au fini, à la fin, tu faisais tout le tableau et le maître signait en bas, quoi, pour dire vite. Mais il y a un peu ça. Mais disons que c'était toujours il y avait toujours un échange. On te donne, mais tu dois donner. Et moi, j'ai réfléchi beaucoup à cette notion-là et je me suis dit, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça une compagnie école. Alors, ça, c'est la première chose. Et le deuxième domaine, c'est que le milieu du cheval est souvent lié à l'argent, parce que ça coûte assez cher d'apprendre à monter à cheval. Et que quand j'ai commencé à faire une audition, on va dire, évidemment, tu pouvais te retrouver devant la petite américaine de 20 ans, à qui on avait payé un cheval à l'âge de 6 ans, donc qui savait pas mal monter, etc. Et puis le pauvre français qui a pas une thune, qui devait travailler au restaurant pour se payer un cours. Voilà. Or, j'ai dit, bon, on va arrêter avec les bourses et tout ça, c'est trop compliqué. On va faire le contraire. On va salarier l'élève pour le mettre tout de suite dans la position de faire. Alors, tout ça, c'est des choses assez contradictoires qu'il a fallu mettre en place. Donc, comment ne pas laisser l'élève dans la position juste d'être quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui donne aussi un travail, pour lequel il a d'ailleurs un salaire, voilà, et en même temps, qu'il apprenne une technique. Donc, ces notions-là font que petit à petit, on a été à formuler une école qui n'existait pas, c'est-à-dire une façon de transmettre qui n'existait pas, et qui ne peut pas être que technique. C'est-à-dire que pour moi, en tant qu'artiste, je dis, transmettre mon art, c'est pas juste une technique. C'est une technique, évidemment, tout part de la technique, mais je peux pas me résoudre à ça, quoi. C'est-à-dire, quand on m'a parlé de technique équestre, il y avait des intervenants qui venaient faire travailler la technique équestre, dans mon état d'esprit, mais qui venaient la faire travailler. Alors, en plus, l'originalité de cette école, c'était de transmettre, j'allais dire, l'équitation, entre guillemets, comme un art et pas comme un sport. Donc, l'idée qui est assez banale, parce qu'elle se fait, en fait, dans toutes les disciplines artistiques, mais elle s'était jamais fait dans les chevaux, c'est de dire qu'un cavalier, pour bien monter à cheval, doit aussi avoir une certaine sensibilité qui se cultive, notamment en travaillant d'autres disciplines artistiques. Ça a été vraiment une vraie réflexion, c'est-à-dire se confronter à la notion de transmission, le faire vraiment, pas juste donner des conseils, pas juste donner des théories, le faire, le vivre, et le faire vivre économiquement.
L'ambition de Martha Basse dépasse l'enseignement proprement dit. Bien qu'il s'agisse d'adultes, l'éducation, au meilleur sens du terme, y a une place centrale.
Et puis alors après, la notion qui pour moi est, j'allais dire, la plus importante, parce que bon, on transmet des techniques, tout ça c'est bien gentil, apprendre un métier, j'allais dire, c'est bien gentil, mais en vérité, pour moi, le plus important, c'est pas ça. C'est apprendre à faire des belles personnes. C'est-à-dire que les gens qui sortent de l'académie ne doivent pas être juste des bons cavaliers, habiles, élégants, tout ce qu'on veut, mais des belles personnes. Ce que j'appelle des belles personnes, c'est des gens qui ont appris à se respecter entre eux, à travailler ensemble pour produire ensemble. Quoi. Donc quelque part ça, c'est déjà contradictoire avec la notion d'école. Donc c'est assez particulier. Hein, quoi. C'est vraiment, moi, je le rapproche, par exemple, à la transmission orientale. Le maître est face à l'élève, le maître fait, l'élève répète, le maître fait pendant des heures, que ce soit en musique, que ce soit en danse. Et petit à petit, l'âme se transmet, l'âme des choses se transmet, mais elle ne se transmet pas par l'explication. Et là, l'expérience est personnelle, et là, elle a une valeur incalculable, parce qu'en fin de compte, travailler avec des chevaux, c'est quoi ? C'est que la beauté de la transmission, c'est de découvrir les choses par soi-même. C'est-à-dire, c'est ça qui est beau. Il y a pas de si moi je pourrais dresser un cheval, j'allais dire à un élève pendant 5 ans, si je le prends tous les jours, je dis fais ça, le cheval va se dresser, hein. Mais la personne n'aura rien compris. Elle aura fait comme un automate ce que tu lui as dit de faire. Elle n'aura rien ressenti, quoi. Je préfère que les gens aillent dans l'erreur. À un moment, ils se disent, tiens, ça marche pas, tiens, qu'ils expérimentent par eux-mêmes. Et là, tu développes chez la personne, ce qui est quand même le but final de cette école, c'est que tu développes des gens qui vont être des artistes, qui vont être des gens qui vont aussi pouvoir transmettre, dire des choses, quoi. Pas juste des automates. Hein, pour moi, la phrase qui résume tout, c'est que le bon maître doit savoir se rendre inutile. Pour moi, c'est la phrase clé, quoi. Enfin, je suis très fier de cette école, d'autant plus qu'elle est difficile à maintenir, hein, parce que c'est quand même un projet qui s'est fait, comme tous mes projets, un peu à l'arrache, on va dire, par rapport au monde institutionnel. Mais mon combat maintenant, c'est par exemple d'arriver à, juste autant Zingaro ne sera jamais une institution et ne doit jamais l'être, autant l'Académie, j'aimerais qu'elle le devienne. Il y a un esprit derrière, il y a une tout ce que je viens d'expliquer, une façon de transmettre, etc. Et après, j'espère qu'elle continuera sans moi. Quoi. C'est pas pour rien qu'elle ait fait à Versailles, quoi, dans la pierre. Quoi. C'est pas fait sous chapiteau.
Chapiteau et pierre, hein, je crois que ça vous décrit assez bien. C'est à Christian Boltanski que nous laissons le mot de la fin.
La transmission est la seule chose qui m'intéresse. Et comme je le disais au début, c'est le seul moyen de lutter contre la mort. Il n'y a que ça.
On va faire les petits piquets pour avoir
les pieds bien durs. C'était Artistes et Artisans, la passion de transmettre. Une émission de Caroline Eliachef. Réalisation Manouchak Fachaï. Avec Bartabas, Marie-Agnès Gillot, Christian Boltanski, François Sureau, Sébastien Evin, Apollonia Poilan, Fabrice Thévenin, Caroline Bezet. Archivina Élodie Royer. Collaboration Céline Rosa, recherche musicale Romain Couturier, prise de son François Rivalan, Georges Thau, mixage Manuel Couturier.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez apprendre les bons gestes, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour l'atelier ou nous réécouter en apprentissage, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, dernière étape, hériter ou pas.